France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Jacques Gamblin. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du documentaire Les années Super 8, réalisé par David Ernaud-Rio avec Annie Ernaud. 19h45, Affaires en cours, en quoi la pensée de Georges Bernanos peut-elle nous éclairer aujourd'hui? Sébastien Lapacq rappellera à Marie Sorbier les théories de l'auteur sur notre dépendance à la technologie. 19h50, Affaires à suivre, comme chaque lundi, avec un correspondant de France Culture à l'étranger. Ce soir, direction Israël et la Palestine avec Alice Froussard. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean-Frédéric et Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Jacques Gamblin.
Bonsoir.
Vous êtes en ce moment à l'affiche de Harvey, une pièce de Mary Chase, mise en scène par Laurent Pelly jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Rond-Point, une tournée qui va se poursuivre ensuite jusqu'au mois de janvier. Je donnerai des dates tout à l'heure. On peut également vous voir au cinéma, dans Le Tigre et le Président, un film de Jean-Marc Perfitte sorti le 7 septembre. Une actualité qui me donne l'occasion, le plaisir de vous accueillir pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre approche de votre art, de vos arts. On verra qu'il n'y a pas que le comédien, il y a l'auteur évidemment. L'enfance, bien sûr, toujours une grande importance dans un parcours, d'être né à Granville, entre bord de mer et campagne, et au milieu de tous ces objets, toutes ces machines de la quincaillerie que tenait votre père. Ce sont des éléments constitutifs importants de l'enfant que vous étiez, de l'homme que vous êtes devenu. Plus à l'aise au départ, dites-vous, avec votre corps qu'avec les mots, un corps que le sport a toujours affûté. Je regardais encore votre ligne sur scène l'autre soir, c'est toujours impressionnant. Alors, depuis les courses de l'enfance jusqu'à la danse, on en parlera sans doute. Mais attiré par le théâtre, après une découverte à 17 ans lors d'un camp de vacances, une découverte qui vous amène ensuite à effectuer un stage d'expression théâtrale au Théâtre National de Bretagne, animé par Hubert Lenoir à l'époque, metteur en scène qui dirigeait la jeune compagnie professionnelle du théâtre du Totem. Bon, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, mais dans ce stage, Jacques Gamblin, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Il se passe une sensation physique de liberté. Alors à 17 ans, c'est tout bénef, parce qu'à 17 ans... je suis un peu coincé, oui. L'adolescence, pas simple. Bon, alors là, d'un seul coup, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est quelques heures, oui, d'expression corporelle d'abord, et puis ensuite, oui, un autre stage d'expression théâtrale. Oui. Je me destinais pas du tout là-dedans, c'était très bon. J'ai juste envie d'essayer. J'aime bien essayer. Je me donne pas trop de limites aux tentatives. Et puis c'est bouger, voilà, le corps autrement que par le sport. Et c'est une sensation de lévitation, d'être juste quelques centimètres au-dessus du sol pendant ces quelques heures. C'était juste magique. Ah oui, je peux avoir 17 ans et me sentir libre. Comme une parenthèse dans l'adolescence, oui.
Il n'y a pas que vous qui sentez quelque chose de spécial, parce qu'Hubert Lenoir, il va vous proposer de l'accompagner ensuite dans sa compagnie.
Oui. Suite à un stage plus longue durée de 3 semaines avec une réalisation, c'était à Draguignan, et à la suite de ce stage, il me propose de remplacer son technicien qui doit partir, et on se promène à partir de septembre avec un spectacle, une 4L, 2 acteurs, un montage, des montages poétiques, et moi j'apprends tout. Puisque je ne sais rien, déjà de la technique, du son, des projecteurs, du nom des projecteurs, de manipuler tout ça dans les salles, d'avoir peu à peu des gens sous mes ordres dans les théâtres où on représente. C'était complètement dingue le risque qu'il a pris. Il m'a fait une grande confiance. Ben, j'espère qu'il a eu raison.
Ben, ça, c'est évident, mais il a plus confiance en vous que vous en vous-même, puisque vous quittez la compagnie, vous commencez une formation de menuisier, mais il vous rappelle, il vous convainc quand même de venir pour un spectacle, la balade de Billy Pot d'Argile. Puis il y a aussi la comédie de Caen, Claude Hyersin, qu'il faut aussi tout de suite citer, qui lui aussi voit autre chose en vous que ce que vous imaginez vous-même à ce moment-là. Jacques Gamblin.
Oui, je suis toujours étonné des gens qui vous engagent sur un personnage alors qu'ils en ont vu un autre. Enfin, ça arrive. Il y a quelques metteurs en scène qui ont beaucoup d'imagination. Et c'est vrai que Claude Hyersin et Michel Dubois qui dirigeaient la Comédie de Caen à l'époque, qui était un centre dramatique vraiment absolument merveilleux. En plus d'avoir deux metteurs en scène avec des styles de travail très différents, c'était incroyable d'avoir été engagé là comme permanent suite à ce premier spectacle, cette pièce de Daniel Besnehard. Oui, il me voit jouer un bouffon, il me voit jouer une sorte de simplet, d'idiot de village dans le Cid de Pierre de Beauche, personnage quasiment muet. Et il m'engage en effet pour une pièce très très réaliste, naturaliste, enfin sous l'occupation.
L'étang gris.
Et l'étang gris, voilà.
Jeu de mots, l'étang de la surface aqueuse, gris, c'est bien
voilà,
gris.
Voilà, l'étang gris. Et je ne cesse de dire merci à ces gens-là qui ont l'imagination de vous engager pour autre chose, pour tenter autre chose que ce qu'ils ont vu.
Un autre homme important, là j'avance vite pour aller vers un des premiers rôles au cinéma, dans le film de Claude Lelouch, Il y a des jours et des lunes. On écoute cette petite archive du cinéaste dans Les étoiles du cinéma. On est le 7 avril 90 et ce film vient de sortir.
On se lance pas dans la vie sur un clap. C'est pas parce que vous dites partez que votre vie commence. C'est pas au moment où vous sortez du ventre de votre mère que vous êtes créatif et que vous allez faire les belles choses de votre vie. Il faut toute une vie pour, à un moment donné, faire les choses. Il faut un temps de mûrissement. Et quand on tourne des plans, quand on tourne des séquences, quand on tourne des scènes, eh bien, disons, si vous voulez, j'essaye de fabriquer ce mûrissement nécessaire à la scène. C'est-à-dire que je ne lance pas l'action comme ça, bêtement, en disant « Vous êtes prêts, tout le monde, le silence, attention, je ne veux plus rien entendre, partez !» Rien que le fait de dire partir, ça fait peur, ça casse la vie, ça casse les sentiments. Vous ne pouvez pas dire à deux personnes qui sont en train de s'embrasser ou de faire l'amour « Action !» Bon, moi, ça me couperait tous les effets. Donc, si vous voulez, j'essaye. Et c'est pour ça que les comédiens ont immensément de talent, c'est parce qu'ils partent sur des partés qu'ils arrêtent sur des coupés. Alors, moi, je leur laisse le temps de vivre la scène et je mets ma caméra en route simplement quand je sens que la vie est sur le plateau. Donc, des fois, on attend 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, que la vie se mette à exister et que les comédiens ne sachent pas le moment où ça va partir. Et surtout, quand ça va bien, je coupe plus. Je pars toujours avec mes caméras chargées à fond. J'ai toujours mes magasins pleins à craquer. Parce que c'est toujours dans les fins de scène que les plus beaux moments se produisent. Et c'est vrai que ce que j'aime dans mes films, c'est toutes les scènes que je serais incapable de refaire.
Oui. Ah, il y avait eu quelques apparitions avant la caméra de Claude Lelouch, mais elle est importante pour vous, Jacques Gamblin.
Oui, et puis alors ce que j'entends là, alors ça, c'est du pain béni parce que je suis tellement d'accord avec ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus terrifiant. Même les interviews, souvent, alors on dit vous êtes prêt oui, non. Enfin, je ne suis pas prêt. En fait, je ne voudrais que rien ne commence. Je voudrais que tout ait déjà commencé. Qu'il n'y a pas ce moment terrible où on dit voilà, attention, comme il vient de le dire, ça tape action. Non, ça a commencé. Toujours se mettre dans le corps que même quand le spectacle commence, il a commencé. Parce que sinon c'est terrifiant. Enfin, c'est quelque chose de ça bloque. Oui, ça c'est. Je trouve qu'il a vraiment raison. J'avais jamais entendu ça de la part. Il a toujours des formules Claude Lelouch extraordinaires et super justes.
Ben, on reviendra tout à l'heure évidemment sur le théâtre, mais justement par rapport à ce que vous venez de dire, Jacques Gamblin, avant d'entrer en scène dans Harvey comme dans d'autres spectacles, dans la coulisse, vous mettez dans quel état?
Bah déjà l'état du silence, l'état du vide, enfin ça veut rien dire le vide, parce que le vide il se remplit toujours de quelques pensées parasites, je ne sais pas très bien, on dit hein, dans les stages ou dans les coachings, faut faire le vide, faut ça marche pas, et le vide on sait pas très bien de quoi il est fait, le vide, parce qu'il n'est pas fait de vide en fait. Et donc c'est compliqué, mais en tout cas je ne suis, là en l'occurrence, avant de rentrer sur ce plateau là tous les soirs au théâtre du Rond-Point, je suis incapable de parler avec des gens, d'autres acteurs avec qui je m'entends très très bien, mais là non, je suis dans une bulle de que j'essaie de, oui, qu'elle soit la plus silencieuse possible. Et
Mais c'est le cas pour les autres rôles ou c'est celui-ci qui nécessite
ça? Non, c'est quand même ça. Et cette bulle de silence, elle démarre en fait à 17h le soir, en fait, 3h30 avant la levée du torchon, comme on dit. Oui, je vais très tôt au théâtre parce que je suis bien là où je suis. C'est là que je dois être. Dans cette loge. Et donc, il peut plus rien m'arriver, à part de me casser la gueule dans l'escalier pour descendre sur le plateau. Mais enfin, la probabilité est pas très... voilà, je dois être là, et donc c'est très rassurant d'être là où on doit être, et de pouvoir, voilà. Donc je fais des étirements pendant une heure et demie. C'est ma façon de me préparer, et puis ensuite, je dors. En tout cas, j'essaye de faire une sieste qui me met dans un état de renaissance quand je me réveille. En fait, l'idéal serait de se réveiller sur le plateau, je dis souvent ça, comme ça... où rien ne se serait passé encore entre le moment du réveil et le moment où, hop, on doit dire les premières phrases, les premières présences. C'est l'état de page blanche, en fait, que je cherche. Et le sommeil, il n'y a pas, pour moi, meilleure solution. Je fais ça depuis très longtemps, depuis que je fais du solo. J'ai découvert ça, et maintenant, c'est un rituel, voilà, c'est une routine. On a tous nos routines.
Oui, mais c'est toujours intéressant de les découvrir, comme les sportifs, en effet. Alors, je rembobine encore un tout petit peu sur le cinéma. En 95, il y a le magnifique À la vie, à la mort de Robert Guédiguian. Moi, c'est la première fois que je vois à l'écran et c'est un film qui me bouleverse parce que je l'ai revu quelques fois depuis. L'année suivante, Pénal douce de Gabriel Aguillon, plus de 4 millions de spectateurs. Qu'est-ce que ça change pour vous à ce moment-là, Jacques Gamblin, ce film-là?
Bah, ça change une visibilité, parce que le film de Robert Guédiguian est un film qui a été vraiment très honoré, enfin, par la presse et par les gens qui l'ont vu. Ça n'a pas été un succès, comment dire, public.
Juste avant Marius et Jeannette.
Voilà, mais
déjà tous les ingrédients
succès,
sont là.
Voilà, mais un gros succès d'estime et qui a fait que Marius et Jeannette a explosé en termes de succès public. Et évidemment, Pédale douce, ben là, en l'occurrence, c'est un succès public. Et c'est un film qui tombe bien à l'époque où il est sorti, quoi. Il est un peu en avance, mais pas trop. Enfin, c'est devenu comme un film culte à un moment donné, où toutes les gens de toute génération sont venus le voir sans trop être inquiétés par les idées qu'il trimballait. Donc c'est le bon moment, c'est intelligent.
Et c'est pour ça qu'il rencontre aussi ce succès, notamment. Mais la bande originale de Pédale douce, elle regorgeait de tubes, hein, Mylène Farmer, Dalida, oui. Bonnet M, Patrick Juvet. Mais le moment musical pour vous et votre choix, Jacques Gamblin, c'est un morceau de The Blaze qui s'appelle She. Est-ce que vous nous en dites quelques mots avant qu'on l'écoute ou après? Qu'est-ce que vous préférez?
Oh bah non, mais...
Rien. Écoutez.
Bon, la musique se suffit à elle-même, j'espère.
Écoutons
en tout cas, pour moi, elle me suffit.
Écoutons-la.
Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved. loved to fight, but she's never been loved. She's never been loved.
C'est du pur bonheur.
Ouais. Wow. On peut dire que vous avez demandé à ce qu'on augmente le son dans le studio. Vous avez un peu dansé, Jacques Gamblin, la danse. Et on revient évidemment au corps. Elle est très importante. Il y a eu récemment des spectacles avec Raphaël Delaunay, la danseuse et chorégraphe. Mais il y a cette présence physique qui est formidable, encore une fois, dans Harvey. La danse, elle vient naturellement chez vous?
Non, enfin, le corps vient naturellement, mais après, la danse, elle vient parce que j'associe à mes spectacles des danseurs et que le théâtre et la danse, deux arts qui sont relativement antinomiques, pour les associer, eh bien, il faut que les comédiens dansent, ou en tout cas bougent, et que les danseurs jouent la comédie, ou en tout cas aient une présence théâtrale. Donc, si ça ne se tuile pas comme ça, si ça ne s'auto-pénètre pas comme ça, ça ne fonctionne pas. Ou alors, ça devient de l'illustration. Et alors, une partie comme ça de mots, une partie qui danse, Et non, faut que ça se pénètre comme ça. C'est essentiel. C'est comme ça que la danse elle vient, parce qu'évidemment ça m'oblige à progresser, de travailler avec des danseurs. Et après, je dis pas que je suis un danseur du tout. Je ne m'autorise pas ça, mais enfin, j'ai un corps qui bouge en tout cas.
Ouais, qui bouge bien. J'ai parlé des années fin des années 90 avec La vie à la mort, Pénale douce et d'autres films, mais j'ai omis de parler du fait qu'à partir de 91, avec Quincaillerie, votre premier livre, vous devenez auteur, un auteur qui dont les textes deviennent des spectacles. Jusqu'à Je parle à un homme qui ne tient pas en place, le dernier en date, me semble-t-il, 2017. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture au départ, Jacques Gamblin, de Quincaillerie?
C'est une improvisation chez mes parents, avec un magnétophone, et où j'improvise pendant 1h20, je me souviens très bien, sur une cassette comme ça, et je pars en délire non-stop sur ma famille, sur la boutique, les pièces détachées, tous ces objets, et tout ça en parallèle avec la famille à laquelle je dis ne rien y comprendre, toutes ces relations de parenté, c'est un peu confus, et aussi confus que toutes ces pièces détachées dans la boutique dont je ne sais pas à qui et à quoi elles doivent être associées pour faire un tout. Donc c'est un personnage déjà qui émerge de cette improvisation, il ne comprend pas, il est dans un état d'innocence, il ne comprend pas qui est qui et quoi sert à quoi.
Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça, et après je réécoute cette improvisation un an et demi après, suite à une proposition d'un metteur en scène, et je demande à cette personne, Yves Babin, de me dire s'il pense qu'il y a de l'écriture dans cet oral, et il me dit oui, il y a de l'écriture, donc je me mets à écrire tout ce que j'entends, absolument tout ce que j'entends, et je travaille à la table ce texte qui devient effectivement le premier texte théâtral que j'écris, et qui se joue un peu partout en France.
Alors, depuis, il y en a eu 6 autres, si je compte bien. Ouais. Est-ce que le processus est le même? Est-ce que ça commence par une impro, par l'oralité, avant de devenir mot sur le papier?
Alors, ça reste un processus parmi d'autres, parce qu'il y a des textes que j'ai écrits à la table. Le toucher de la hanche a été écrit essentiellement à la table. Entre courir et voler, il n'y a qu'un pas, papa aussi. Le jazz, ce que le jazz fait à ma jambe aussi. Par contre, 1h23 minutes 14 secondes et 7 centièmes, ça, c'est parti d'une matière première qui est complètement improvisée. Et ensuite, évidemment filmé, puisque une improvisation qui n'est pas filmée, retenue, imprimée quelque part est morte. On peut pas retrouver ça deux fois. Donc c'est toujours tout est normal. Mon cœur scintille est totalement écrit à partir d'improvisation pendant des jours et des jours. Et puis le dernier, hop, avec Raphaël Delaunay, est aussi une matière qui va devenir écrite et puis à nouveau orale, mais qui au départ c'est que des improvisations filmées qui nous offre la matière première, et ensuite une sélection de qu'est-ce qui va à la poubelle, qu'est-ce qui tient le coup, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va permettre de construire une histoire, etc. Oui, j'aime beaucoup. En fait, je crois que l'improvisation est la plus belle chose qui m'ait été offerte dans ce métier. Alors, je n'improvise pas en scène, mais l'improvisation, c'est encore une fois là la liberté totale, quoi. C'est-à-dire que je ne me donne aucune barrière. À partir de trois fois rien, on peut faire trois fois tout. Et le ridicule ne tue pas. Il grandit même dans ces moments-là. Donc je profite.
Mais est-ce que ces textes-là et ces spectacles-là, ils forment quelque chose qui serait une forme d'autobiographie?
Plus ou moins, parce que je pars toujours d'une émotion personnelle. Dans Tout est normal, mon cœur scintille, je parle finalement de l'absence de l'autre, du corps qui manque. Évidemment, c'est lié à une séparation que j'ai vécue. Le toucher de la hanche, ça part de regarder mes parents danser, la valse, et puis j'en fais d'un seul coup tout un personnage qui fait des concours de danse, de danse de couple, etc. etc. Entre courir et voler, c'est la naissance d'un enfant en parallèle avec la mort d'un père, comme si ces deux événements se passaient au même moment. Tout ça, c'est des choses, bien sûr, qui font partie de ma vie, plus ou moins, et puis qu'ensuite, après, voilà, je déploie des ailes.
C'est le génie créatif, là, qui après passe par là. Mais à propos de personnages, cette Harvey que vous jouez en ce moment au rond-point, pour partie, il m'a semblé que c'est un personnage que vous auriez pu écrire, Jacques Gamblin. Est-ce que vous vous êtes senti une affinité particulière avec cette Harvey?
Oui, je me sens une affinité particulière. Je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire, parce que bon, elle a fait ça très bien, Mary Chase.
C'est sûr.
Mais
sur les affinités.
Oui, je me sens une affinité. Je me sens que cet homme-là est un bon copain, quoi. Un bon copain dans ma vie même. Je veux dire, même quand je sors du plateau. Pourquoi c'est un bon copain? Parce qu'il invente un monde et il invente le monde qu'il voit. Il a cet état d'innocence, même il réagit parfois à des mots où le sens que les gens qu'il a en face de lui y mettent, ça n'est pas le même sens pour lui. Donc il y a quelque chose là qui m'intéresse, voir toujours le monde sous un autre axe, ce qu'il voit. Et puis ça révèle surtout que ce que chacun voit est totalement, c'est totalement individuel. Ce que je vois, vous ne le voyez pas. Et on a beau et faire en sorte de pouvoir communiquer avec autrui tous les jours, on essaye, mais ce ne sont que des tentatives. Et très vite, je me suis dit, oui, je suis seul, quoi. Je veux dire, déjà à l'adolescence, je me souviens comme ça de discussions. Je me suis dit, on est seul. Enfin, c'est banal de dire ça, mais j'ai eu cette conscience que voilà. Donc, ce que je vois, je suis le seul à le voir. Et c'est absolument. Il n'y a pas à remettre ça en doute. Ce que vous voyez, vous, n'est pas ce que je vois moi. Et donc, évidemment, c'est compliqué dans les relations, mais il faut admettre que l'autre ne voit pas la même chose que vous. Sinon, on est en conflit permanent. Enfin, sinon, on est en reproche permanent. C'est impossible à vivre.
Ouais, c'est un très bon résumé de la pièce que vous faites, parce que je fais exprès de ne pas en dire plus, Jacques Gamblin, pour que chacune et chacun puisse découvrir ce qui se passe autour de cette Harvey. Mais... À propos de cette présence sur scène, j'aurais évoqué quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'ai souvent reçu cette antenne, c'est Philippe Avron. Parce que j'ai omis tout à l'heure de dire, dans le parcours, dans votre formation, Jacques Gamblin, qu'il y avait aussi Paul-André Sagel, élève de Jacques Lecoq, comme Philippe Avron. C'est avec Paul-André Sagel, pardon, que vous avez commencé à travailler votre clown, Jacques Gamblin.
Je suis content qu'on parle de tous ces gens, bien sûr, oui, parce que c'était dans une maison des jeunes de la culture à Saint-Brieuc. Il avait un atelier de clown et c'est là que j'ai commencé à toucher du doigt cette merveille qu'est le clown. Voilà, qu'est-ce que c'est ce clown qu'on a chacun en soi, sur soi, et qu'on révèle, enfin, qu'on cherche à révéler, parce que pour moi c'est ce qu'il y a d'à peu près de plus beau dans l'art théâtral, le clown, parce qu'il réinvente un monde et qu'il nous fait voir le monde autrement, voilà. Parce qu'il ne peut pas s'ennuyer, un clown. Il découvre, il est en état de surprise. Et c'est comme c'est une solution, parce que tout ce qu'on vient d'entendre là, à 19h, ces informations dont on sait qu'elles sont toujours très chagrinesques, comment survivre à tout ça, sinon en étant un peu disponible à quelques surprises joyeuses, tant qu'à faire.
Alors, surprise joyeuse, on va, non seulement on en parle, mais on va écouter Un extrait d'entretien que j'avais eu avec Philippe Avron, c'était en 2010. On était en direct du festival Théâtre en Mai à Dijon et il jouait Montaigne, Shakespeare, Mon père et moi. C'était son dernier spectacle.
Il y a un moment où le public, c'est ce que dit Shakespeare, soyez les ingénieux chimistes de nos métamorphoses. C'est vous qui mettez la couronne sur la tête de nos rois. C'est vous qui mettez les perles dans les cheveux de nos fées. Le public, il a son rôle à jouer. Et c'est une chose importante de Montaigne. C'est-à-dire que Montaigne s'avance avec la parole. La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute. Il s'avance, après l'obscurantisme du Moyen-Âge, il s'avance non pas devant un dieu qui va lui répondre, mais devant un autre, devant l'autre, devant l'incertitude de l'autre. Et c'est cette troisième chose dont parle Peter Brook. Il y a nous, il y a eux, et il y a la troisième chose. La troisième chose, c'est ce qui va se passer, et qui est nouveau. Un parler vrai engendre un autre parler. Un parler vrai engendre un autre parler à la manière de l'amour ou du vin. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce public que j'ai eu hier soir, et que je remercie d'être venu, et qui fait le public, fait avec moi. Alors j'ai peur parce que je dis des choses de la Boétie qu'il faut dire sur la tyrannie, qui sont essentielles. Quatre phrases, c'est tout. Mais quand même, on comprend qu'à partir de là, Montaigne, ils disent dans le miroir de cette amitié, je suis allé de moi-même vers moi-même. Bon, oui, on a compris que cette amitié, c'était pas seulement affectif, c'était aussi l'homme le plus accompli de son siècle, et un choc qui lui a permis d'aller loin. Mais c'est ça, il faut que le public avance avec nous, il faut qu'il accepte cette chose-là, et il faut qu'il nous aide.
Ça chante, hein, Philippe Avron.
Ah non, ben c'est drôle. Enfin bon, Philippe Avron, c'est pour moi. Je suis un grand, grand admirateur. J'ai vu tous ses spectacles. Je suis allé le rencontrer. Il est toujours là pour moi. Mmh. Voilà, il est toujours en train pour moi de rentrer en scène avec ce sourire et juste après ce sourire d'ouverture, finalement d'accueil du public qui est là, qui s'est déplacé, qui a payé. Enfin voilà, bon. Cette attention, ce sourire qui accueille et il dit je suis un saumon et voilà bon et là tout le monde voit le saumon en Philippe Avron c'est simple c'est tel que je le décris sauf que c'est des années de travail pour atteindre à cette simplicité et puis c'est un philosophe Avron on rentre dans les méandres de sa pensée mais c'est un clown philosophe alors ça c'est un grand monsieur qui n'était pas grand en taille, mais une très belle personne et je suis très heureux de l'avoir rencontré. Ah oui. Travailler un peu comme ça aussi d'ailleurs en improvisation, soit je crois filmé par sa femme et oui, on a échangé nos façons de faire à un moment. Voilà, bon.
Est-ce qu'il dit, lui, du rapport au public? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous, surtout, vous pouvez dire, Jacques Gamblin, du rapport qui existe avec le public? Qu'est-ce qui se joue?
C'est compliqué, là, en quelques secondes, de parler du rapport public. C'est un rapport qu'on a dans notre conscient, mais ça doit devenir dans notre inconscient. On doit pas aller le chercher. On doit faire notre travail en sachant qu'il est là, mais en tentant de l'oublier. C'est un peu comme une caméra au cinéma. C'est-à-dire, on sait qu'elle est là. Bon, et c'est, je sais pas comment dire. Je sais pas. C'est un chemin de confiance en soi qui est tellement long pour que je puisse atteindre un tout petit peu de ce que j'appelle la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse chercher toujours à être là au moment M quoi de l'instant et il n'y a pas de limite à ce chemin de se sentir toujours, mais c'est vrai dans la vie aussi, comment on est disponible, quoi, comment se rendre disponible à chaque seconde du plateau, de la scène qui se joue, de l'œil du partenaire, de son humeur d'aujourd'hui, etc. Et c'est ça que j'appelle, je sais pas comment appeler ça, c'est Bon, on s'arrête là sur le sujet, c'est complexe.
C'est vertigineux aussi, mais dans cette présence, je reviens vers Harvey.
Alors si, peut-être, je veux juste ajouter, c'est qu'il y a eu un moment où je pensais que le public, c'était comme un combat de jouer plus en solo, un combat entre le public et puis moi, comme ça, qui venait pour me voir éventuellement chuter, tomber comme un fil de ferris qu'on va au cirque pour dire, bon, parce qu'il y a du danger. Et puis je me suis calmé, heureusement, avec le temps pour dire non, c'est pas un combat, c'est un voyage, et ça se fait possiblement dans le même bus ou dans le même train, c'est ensemble. Si les gens sont là, c'est qu'ils ont envie de voir un acteur ou de voir une pièce enfin en tout cas qu'ils ont cette curiosité, et donc on doit être dans la même curiosité, moi d'eux, eux de moi, de nous, enfin, et c'est ça qui joue. Sinon on force le trait, on volontarise le jeu. C'est dommage, oui.
Faut que le désir soit réciproque, bien sûr. C'est le cas aussi, parce que je vois que, oui, effectivement, le temps file, ce qui est normal, et on a beaucoup de choses dont on aurait pu parler, mais on va quand même dire quelques mots sur Le Tigre et le Président, tout de même.
Ah oui.
Le film de Jean-Marc Perfit qui est sorti le 7 septembre, parce que vous avez tourné dans de nombreux films, depuis les premiers succès de notamment on évoquait tout à l'heure, Pédale Douce tout à l'heure, mais vous n'avez jamais cherché, Jacques Gamblin, à enchaîner frénétiquement, alors que vous auriez pu. Vous avez toujours laissé de la place, et pour l'écriture, pour le théâtre, énormément.
Ah oui, du vide. Oui, enfin du vide qui était plein aussi, oui, d'écriture, de plein de choses, mais oui, non, je n'aime pas, j'ai pas envie de cette surexposition en fait, et la vie a fait que voilà, puis que j'accepte des choses pour lesquelles je suis extrêmement envie de m'engager, et donc je ne cours après rien, surtout maintenant, je ne cours après rien, encore moins qu'avant, et c'est très agréable parce que je suis disponible à ce qui advient, et sans crainte. Enfin bon, c'est l'avantage de l'âge aussi.
Alors qu'est-ce qui vous a fait de ce fait accepter de jouer le rôle du président Paul Deschanel dans ce Tigre et le Président? Parce que le tigre, on le connaît, c'est Clémenceau. Ce président-là, bon, on a des histoires sur lui, mais on les connaît pas très bien.
Ben, on les connaît même pas du tout, à part voilà qu'il est tombé du train. Même moi, ça, je ne le savais pas. Ça fait rire tout le monde. Et quand j'ai lu le scénario, extrêmement bien documenté de Jean-Marc Perfit, c'était inouï de découvrir. Et d'ailleurs, cette découverte que j'ai eue du personnage, c'est vraiment la découverte que le public il a quand il va voir le film. Il découvre un homme incroyable, un génie quelque part, d'être faire toutes ces propositions de sociétales qui vont bien au-delà de sa propre vie et de la vie qui suit. Et c'est tellement fort, émouvant et plein d'espoir d'entendre quelqu'un qui parle loin, qui parle pas simplement dans les 5 ans qui vont venir, ou l'échéance d'une réélection possible. Non, qui voit plus loin que sa propre vie. Et c'est de ça dont j'ai besoin, moi, d'entendre des gens qui voient plus loin qu'eux-mêmes, qui nous dirigent, tant qu'à faire, oui. C'est...
À propos de
même si on les traite d'utopistes et tout ça, comme si c'était insultant, moi, ou bien, non.
À propos de direction, quand Jean-Marc Perfit a devant son objectif Jacques Gamblin et André Dussolier, comment est-ce qu'il dirige? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre metteur en scène dans ces cas-là?
Ouais, j'attends un accompagnement, en fait. On dit toujours la direction d'acteur. Mais oui, ce sont des directions, de style, de hauteur de jeu, ou de, bien sûr, et ça, le metteur en scène, il est là, bien sûr, pour faire la mise en espace, et ça, pour nous mettre dans des situations, mais aussi pour accorder les instruments de tous les acteurs pour qu'on joue le même film, le même style. Ça m'est arrivé de jouer dans un film où j'ai joué un style de comédie qui n'était pas forcément joué par d'autres partenaires. Et là, ça rentre dans un déséquilibre et ça fonctionne pas. Donc j'attends un metteur en scène qui soit le chef de cet orchestre là et que les différents instruments soient accordés. Et puis j'attends de la curiosité, j'attends de qu'on essaye des choses, même si on a peu de temps, on peut toujours essayer des choses. Voilà, Et là, ça s'est passé merveilleusement, avec aussi la complémentarité de Christophe Duturon, qui était associé à l'artistique dans le tournage, et qui a apporté son grain de sel, de sable, largement à la plage.
Pour finir, cet entretien-là, ce premier, on en aura peut-être trop d'autres, mais que pour ce rôle dans Harvey, j'y reviens, vous avez obtenu le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public, c'est le deuxième Molière que vous recevez, Jacques Gamblin. Quelle importance vous accordez aux récompenses ?
J'accorde évidemment, d'abord je dis merci, je pensais pas que ça a cet impact. Je vois bien comment ça se passe là au Théâtre du Rond-Point là tous les soirs. Ça marche très bien, et peut-être le Molière en est aussi une des raisons à la qualité du spectacle de Laurent Pelly. Mais toujours que j'ai quand même envie de, au-delà du plaisir que j'ai de cette reconnaissance, et qui n'est pas rien, j'ai toujours aussi envie de rectifier pour dire voilà, ça n'est pas le Molière du meilleur acteur, mais un Molière de l'acteur, ce qui me suffit largement, ce qui est déjà énorme, car évidemment, les différents spectacles et les différentes prestations d'acteurs dans ces différents spectacles n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc il est difficile de... Et je constate d'ailleurs que l'adjectif meilleur disparaît peu à peu de la définition là du Molière, étant mieux. Oui.
Je rappelle donc que vous êtes en ce moment à l'affiche de Harvey, pièce de Mary Chase, mise en scène Laurent Pelly, c'était jusqu'au 8 octobre au Théâtre du Rond-Point. Le spectacle sera ensuite en tournée à Annonay, Cachan, Yeneuilly, Draguignan, Mâcon, Dunkerque, Grenoble, Antibes, Compiègne, Saint-Michel-sur-Orge. On mettra les détails des dates, bien sûr, sur la page internet d'Affaires Culturelles. Et puis donc, rappelez qu'on peut vous voir également sur grand écran dans Le Tigre et le Président, film de Jean-Marc Perfit, sorti le 7 septembre. Merci beaucoup, Jacques Gamblin.
Merci à vous.
France Culture, Affaires Culturelles, Arnaud Laporte.
Et c'est maintenant l'heure d'Affaires Critiques. Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Et ce soir, vous nous parlez d'un documentaire disponible sur Arte, Les années Super 8, un film réalisé par David Ernaud Brio avec Annie Ernaud.
Oui, je vois beaucoup de commentaires, au mieux indifférents, au pire sévères sur cet objet. On dit que ce n'est pas grand-chose, que ça ne fait pas cinéma, que c'est mou, que c'est informe. J'ai un peu envie de le défendre parce que je crois, j'espère, qu'au-delà de mon amour presque inconditionnel pour l'œuvre d'Annie Ernaux, il y a quelque chose dedans qui est intéressant et peut-être même qui interroge l'œuvre et l'amour en question. Les années Super 8 est un film réalisé par David Ernaud Brio, le fils d'Annie Ernaux. Au départ, il y a des images filmées avec une caméra Super 8, comme nombre de familles de la classe bourgeoise en ont accumulé. Films de Noël, de voyages, de vacances estivales, de chahuts enfantins. Ces petites séquences, muettes, tournées pour la plupart par l'ex-mari d'Annie Ernaux entre 1972 et 1981, se trouvent ici montées et commentées dans la voix de l'écrivaine. C'est donc un objet hybride, peut-être pas un grand film de cinéma, il va sortir sur grand écran à la fin de l'année, mais en effet peut-être le format télévisuel lui sied davantage, mais un document dont l'intérêt cinématographique tient à son rapport à une œuvre littéraire. D'abord, on y retrouve les motifs et les sujets qu'Annie Ernaux excelle à écrire. La classe sociale, quand elle explique que la caméra Super 8 était pour son mari et elle, dans les années 70, un signe de leur appartenance nouvelle à la bourgeoisie. Elle remarque d'ailleurs qu'ils filmaient beaucoup leur intérieur. On voit un guéridon, une lampe, un fauteuil. On voit aussi sa mère, à elle, personnage principal de la place. On lit dans sa posture, sa blouse d'intérieur, la différence sociale qu'Annie Ernaux documente. On y suit surtout, comme dans les années, et à ce même rythme effréné de l'écriture, la fin des Trente Glorieuses, du point de vue de ce qu'on appellerait aujourd'hui une transfuge de classe, qui a soudain accès à la culture, à la consommation de masse, au voyage. Le couple Ernaux va au Chili, en URSS, dans des voyages organisés. On retrouve, à l'écoute de la voix off, cette immense clarté dans la description, quelque chose d'une simplicité miraculeuse dans la transmission d'un air du temps, d'une pensée commune, de caractère, de classe.
Voilà, vous nous parlez de ce qui se dit, donc du texte, mais il s'agit d'un film, documentaire. Qu'est-ce qui se passe à l'image, Lucille ?
C'est ça qui est nouveau et intéressant dans le film, ce que le montage de ces films fait à son écriture. Il semble que l'image amplifie ce qu'il y a de distance à l'intérieur même du style Ernaud, qui, en même temps qu'il décrit le souvenir avec de l'empathie, parfois de la tendresse, est aussi un formidable outil critique et autocritique. Elle décrit par exemple leur voyage familial au Maroc, où ils croyaient dépayser les enfants, je cite, alors qu'on les voit dans un club de vacances sautant dans des piscines entourés de touristes blonds comme eux. On peut encore citer ce qu'elle décrit de leur rapport à la nature et à l'écologie quand ils vont en Ardèche, dans la France, je cite, ancestrale, et croient redécouvrir un rapport authentique à la campagne depuis leur nouvelle posture bourgeoise et urbaine. À l'écran, la silhouette malhabile d'Annie Ernaud montre le décalage. On y voit ce qui se joue à la fois de honte à retrouver la rudesse de ce qui a été longtemps son environnement et la fierté d'y jouer maintenant qu'elle en est sortie. On voit beaucoup Annie Ernaud à l'écran, souvent mal à l'aise, le sourire timide, c'est émouvant. On ne peut s'empêcher, quand on a lu les années où la femme gelée d'y lire les signes de ce qui vient, le divorce, l'émancipation en partie par l'écriture. L'écriture, elle existe d'ailleurs dans le film, elle est un hors-champ permanent, évoqué dans la voix off à plusieurs reprises. Le projet par exemple, encore secret, d'un roman violent et rouge, évoqué alors qu'à l'écran, des enfants en pyjama déballent des cadeaux lors de Noël, du Noël 72. Ou encore ces images d'un festival Wagner à Annecy, où Annie Ernaud en robe chic serre maladroitement les mains de notables alors qu'un manuscrit attend dans le tiroir comme une bombe à retardement. C'est un document doux amer qui fait grincer les images du bonheur familial intimement, puisque c'est aussi un objet qui chronique le détachement et la séparation. Les années Super 8 est un objet singulièrement émouvant et cette émotion se loge bel et bien dans l'espace complexe qui se creuse entre le texte et l'image, bien au-delà de la simple nostalgie d'une soirée diapo.
Voilà qui me donne davantage envie que tout ce que j'avais pu lire et entendre sur ce film. Là maintenant, à vous écouter Lucille, je vais voir moi aussi les années Super 8 disponibles sur le site d'Arte jusqu'au 31 octobre. C'est à présent Affaire en cours avec vous, Marie Sambier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Et ce soir, vous revenez, Marie, sur notre rapport à la machine, plus généralement à la technologie.
Sommes-nous devenus en 2022 l'homme des machines que dénonçait Georges Bernanos en 1947 ? L'écrivain, dans son essai « La France contre les robots », assimilait alors la société moderne, je cite, « à un ensemble de problèmes techniques à résoudre et déplorait de constater que la civilisation des machines fabrique des hommes habitués depuis l'enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. » Pour comprendre en quoi Georges Bernanos peut nous aider à penser notre temps, je suis allée rencontrer Sébastien Lapacque. Sébastien Lapacque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, écrivain. Cette question de l'homme-machine semble très à vif aujourd'hui. Que peut-on apprendre de la pensée de Bernanos sur ce point ?
Beaucoup de choses, surtout ce qui est frappant, c'est qu'il écrit ce livre en 1947. Il est pas très bien compris, il passe pour une espèce de fou, de prophète Jérémie criant. Et ce qui est fascinant, c'est que à mesure que le temps passe, ce livre « La France contre le robot » a de plus en plus de lecteurs. Et toutes sortes d'analyses de Bernanos puissantes. Hein. Je dirais que si vous comparez la fameuse conférence de Heidegger, « La question de la technique » et ce livre, je vous promets que le livre de Bernanos est bien plus puissant. Trouve donc de nouveaux lecteurs, ses analyses justement sur la question de notre soumission à la technique et comme dans le passage que vous avez lu, même que l'enfance ne rêve plus que de la technique. Ce n'est plus une affaire de vieillard impotent qui rêverait de rouler dans un fauteuil électronique, mais même un enfant rêverait d'un tout un appareil électronique qui l'empêcherait de courir, de rêver, d'aimer. Voilà, comme si des machines vivaient à notre place. Et c'est extrêmement fascinant, c'est-à-dire que c'est le grand remplacement, c'est celui de l'homme par la machine et pas celui que certains croient.
Est-ce que, selon vous, la science ou tout ce qui est science est oppressif pour Bernanos ?
Non. D'ailleurs, il y a une chose assez frappante, c'est que Bernanos adorait faire de la moto et pendant la Première Guerre mondiale, il a d'ailleurs été même pilote d'avion. Je pense aussi à Saint-Exupéry, dont on peut le rapprocher, qui adorait son avion et qui pourtant, lui aussi, déplorait d'entrer dans une termitière pour robots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rejet de la science, il n'y a pas cette idée, ce défi de la curiosité humaine. Non, je pense que Bernanos, profondément chrétien, pense que la curiosité humaine peut amener de belles choses. Donc c'est une idée, on pourrait dire presque puritaine. Hein. L'idée d'être curieux amènerait forcément à découvrir des choses, et si on découvrirait toujours des choses mauvaises. Là, on serait dans une espèce de vision radicale contre l'intelligence humaine, contre la raison, chose qu'il n'y a pas du tout. Je ne crois pas que chez Bernanos, comme chez Sainte Thérèse d'Avila, comme chez Ignace de Loyola, comme chez Saint Jean de la Croix, il y a un refus de la raison, mais il y a une vision d'une distance immense entre le désir de l'homme et les possibilités de la réalité, les possibilités scientifiques, techniques de la réalité, et cette certitude et cette vision de ce décalage immense entre le désir et la réalité pousse vers la voie mystique.
Pourquoi certains le rapprochent aujourd'hui des penseurs de la décroissance ?
Parce que de toute évidence, il l'est par son choix de vie. Hein, donc il va au Brésil, dans une ferme, il adore monter à cheval, il rêve d'agriculture, d'une vie simple et sobre. Il se défie justement des lumières parisiennes qu'il a connues dans ses premiers succès littéraires dans les années 20 et 30, parce que de toute évidence, il est un décroissant. Et effectivement, on peut le rapprocher de Jacques Ellul, de Simone Veil, mais aussi d'auteurs, Albert Camus l'aimait beaucoup par exemple, d'auteurs qui voient le mal que l'homme est capable de se faire à lui-même et qui s'en méfient, et qui se méfient des violences que l'homme est capable de déchaîner à la fois contre son prochain, mais aussi contre lui-même.
Je cite une phrase que vous citez vous aussi dans votre ouvrage qui m'a beaucoup marqué. On ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Ça, c'est très beau, très puissant. Alors, vous savez que des neurologues ont travaillé présentement sur la question des problèmes de l'attention. Alors, nous parlons dans une radio, j'écris dans un journal, j'écris des livres et nous sommes tous angoissés que nous préparions un programme de radio, un article dans un journal ou que nous écrivions un livre ou peut-être que nous préparions un opéra ou que nous tournions un film au cinéma par ce problème de l'attention, c'est-à-dire ce problème de la vie intérieure, parce que lire un article de journal, lire un livre, écouter une émission de radio, regarder un film au cinéma, écouter un concerto, c'est un acte de vie intérieure. Et si notre vie intérieure est limitée par la technique au point qu'elle a quelques minutes d'audience et d'attention, il n'y a plus de vie intérieure, il n'y a plus d'intelligence possible, et surtout il n'y a plus de relation entre les hommes possible. On ne peut plus parler aux autres, puisqu'on n'est même plus capable d'être attentif à soi-même. Donc quand on n'est pas attentif à soi-même, on n'est même plus attentif aux autres, on n'est plus rien.
Dans votre ouvrage, vous rapprochez Bernanos de Orwell ou de Pasolini. Ils ont quoi en commun, ces auteurs?
Pasolini, les écrits corsaires, je pense, quand il parle de l'hédonisme laïque, par exemple, ce Pasolini-là est très proche de Bernanos. On peut aussi penser que son film L'Évangile de Matthieu est très proche de Bernanos. Alors Orwell, c'est étonnant parce qu'en fait, il y a plein de choses qui l'éloignent de Bernanos. Il a une défiance assez forte à l'égard du catholicisme, de tout ce qui est latin, alors que Bernanos est un homme du Sud. Hein. Il va sans cesse à Majorque, au Baléares, où il écrit Les Grands Cimetières, enfin, Sous les Lunes, ensuite au Brésil. Quand il revient en France en 1945, il retourne en Tunisie où il écrit Les Dialogues des Carmélites. Mais il y a sans doute une vision, bon, Orwell parle de la common decency, c'est-à-dire une espèce de décence ordinaire des gens simples. Et Bernanos est très attentif à ça. Il se moque souvent de l'élite, mais il pense que la vérité, le bon sens sont dans des comportements quotidiens qu'on observe, grâce à Dieu, jour après jour, encore partout dans le monde, de gestes vraiment tout simples d'humanité, voilà, d'aide, de donner, recevoir, rendre, comme disait Marcel Mauss, cette idée de l'échange, du don, du contre-don, voilà, des gestes ordinaires. Et ça, pour Bernanos, comme pour Orwell, c'est vraiment le trésor des gens simples.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à des auditrices, auditeurs qui n'auraient jamais lu Bernanos ? Par quoi on commence ?
On commence par La France contre les robots. C'est vrai que ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que Bernanos, comme Albert Camus, comme Jean-Paul Sartre, comme André Malraux, comme une grande tradition d'écrivain français, est à la fois romancier et essayiste, à la fois artiste et penseur. Je pense que ses romans mettant en scène des prêtres et des douleurs et des inquiétudes spirituelles se sont un peu éloignés de nous, même si le cinéma, grâce à Piala, grâce à Bresson, nous les rendent proches. Mais aujourd'hui, je suis très frappé de voir que ses essais, La France contre les robots par exemple, et ensuite, La liberté pour quoi faire, trouve sans cesse de nouveaux lecteurs.
Votre ouvrage « Vivre et mourir » avec Georges Bernanos vient de paraître aux éditions de l'Escargot. Merci beaucoup Sébastien Lapac.
Eh bien, merci à vous Marie Sorbier. Et comme chaque lundi, pour terminer, des nouvelles culturelles de l'étranger, ce soir direction Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés, où l'on vous retrouve, Alice Froussard. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Et ce soir, vous allez nous parler d'une série, elle s'appelle Mo, elle est diffusée sur la plateforme Netflix, et en 8 épisodes, on y découvre l'histoire quasi autobiographique de Mohamed Amer, un Palestinien américain connu dans la vraie vie pour ses spectacles de stand-up. Dans la série, coécrite avec Rami Youssef, humoriste et réalisateur également, celui surnommé Mo joue donc son propre personnage et nous plonge dans le quotidien d'une famille de réfugiés palestiniens face aux défis de l'Amérique d'aujourd'hui.
Exactement, on va suivre dans cette série la famille Najjar, celle de Mo, des Palestiniens originaires du village de Bourin à côté de Naplouse qui ont dû fuir leur terre natale en 1948, qui se sont retrouvés au Koweït et ont dû partir à nouveau lors de la première guerre du Golfe. Depuis, ils ont trouvé refuge à Houston, au Texas, et c'est là où se déroule la série. Et si les Najjar ont beau vivre aux États-Unis depuis plus de 20 ans, ils attendent encore que les autorités daignent leur accorder le visa qui leur permettra de se sentir à leur place dans ce pays. En attendant le fameux sésame, on va donc suivre Mo dans sa vie quotidienne, ses déboires pour trouver un travail sans statut légal, sans papier, sans assurance maladie, sa relation avec sa famille, avec sa fiancée mexicaine, et puis le poids du passé, l'incompréhension de la plupart des personnes qu'il rencontre. Tout est raconté avec énormément d'humour et avec la même intensité. La série regarde Houston, ses quartiers, ses légendes locales, ses oliveraies comme ses malls et cette communauté musulmane qui cherche à se faire oublier sans abandonner sa culture. Alors avant de vous en dire davantage, je vous propose d'écouter un petit extrait de la série.
Hello, sir. Would you like to try some chocolate hummus?
You say chocolate hummus? You know what he just did? He just insulted my grandmother. Yeah. To hell with your culture.
Lo siento, I did not know that hummus was Mexican.
It's not Mexican, it's Palestinian.
Il y a encore cette scène où, à un Texan auquel il vient de dire qu'il est palestinien et qui lui répond « Shalom », Mo réplique « Oui, on a un vrai problème de marketing, nous les Palestiniens ». Beaucoup d'humour donc, mais les sujets plus graves ne manquent pas d'être abordés en profondeur. Il y a des références à l'occupation israélienne, au racisme envers les musulmans aux États-Unis, et puis des scènes qui montrent là encore toute l'absurdité et la brutalité de la situation de ces réfugiés palestiniens. Le fait, par exemple, qu'un chien, lors d'un contrôle de police, possède un passeport canin accroché sur son harnais, passeport que Mo n'a pas. La série évoque aussi l'impossibilité pour Mo et sa famille, privés de papier, de sortir des États-Unis au risque de ne plus jamais pouvoir y revenir et de se retrouver avec nulle part où aller. Je n'ai jamais été en Palestine, je ne suis pas palestinien là-bas, je ne suis pas américain ici, je suis un réfugié sans nationalité, explique Mo. En tout cas, la série a déjà attiré l'attention de milliers de spectateurs et a reçu des critiques élogieuses des Palestiniens. C'est une série des plus brillante qui parle de partie de moi dont je ne connaissais même pas l'existence, raconte une jeune palestinienne américaine sur Twitter. Alors à Ramallah, à Gaza ou encore à Jérusalem, beaucoup de Palestiniens découvrent aussi que malgré l'éloignement géographique avec Mo et sa famille, malgré une réalité différente, les problématiques liées à l'identité sont communes et les cultures se rejoignent.
Et puis surtout, Alice, c'est la première fois qu'une famille palestinienne est sur le devant de la scène dans une série américaine.
Oui, exactement, et du moins en parlant des Palestiniens avec humour, avec beaucoup d'humanité et puis de manière percutante et résonante. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Palestiniens le soulignent, cette série parle de la Palestine, mais en la sortant pour une fois de sa connotation négative ou gravissime, sans l'associer à la guerre ou au terrorisme, et c'est une première sur un réseau américain mainstream. Il y a aussi toutes ces petites touches disséminées tout au long de l'histoire à qui les Palestiniens s'associent, rendant la série unique en son genre. La bouteille d'huile d'olive, par exemple, balade comme un paquet de cigarettes qui guérit tous les maux. L'amour et le respect du houmous et de la nourriture typiquement palestinienne. Et puis la pression au mariage, mais alors avec une personne de la même religion. Et puis les souvenirs d'un pays, la Palestine, que Mo ne reverra plus. Au Texas, ce dernier embrasse donc ses racines, arbore son kéfier, s'interroge sur l'absurdité de sa situation et donne ainsi, en douceur, une plus grande visibilité à la cause palestinienne.
Bien, merci Alice Froussard pour cette lecture de Mo. La série est disponible sur Netflix, on a du coup très envie de regarder. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou à podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.